Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public et nous sommes de nouveau sur la scène du Théâtre de l'Odéon à Paris. Merci à vous d'être désormais fidèles à ce rendez-vous. Ensemble, nous allons revenir sur deux temps forts de l'actualité avec nos visiteurs du jour. Aujourd'hui, l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti, la journaliste Christine Ockrent, le politologue Dominique Régnier et Thierry Pêche du think tank Terra Nova. Au sommaire cette semaine, France, d'où vient la violence ? Et écologie, le début d'une conscience. Gilets jaunes, épisode 19, et les policiers, gendarmes et CRS désormais rejoints par l'armée. Pour certains, l'emploi des soldats de l'opération Sentinelle opérait une confusion entre la lutte contre le terrorisme et le maintien de l'ordre dans la France des Gilets jaunes et évoquait l'idée d'un ennemi de l'intérieur en France. Comment fallait-il en effet qualifier la violence à laquelle nous assistions depuis maintenant près de 5 mois ? Quelle était la légitimité de cette violence employée ces derniers mois en démocratie ? À cette question au fond essentielle et centrale, on entendait ceux qui pointaient en France un pouvoir en place exaspérant les divisions, un pouvoir jugé par d'autres incompétent quant à sa gestion du maintien de l'ordre, ceux qui, à l'inverse, pointaient une France votant aux extrêmes depuis belle lurette et qui avaient trouvé avec ses gilets jaunes une couverture commode pour perturber la République au motif que « il faut de la casse pour être entendu ». D'où venait la violence ? Et si elle n'était pas spécifiquement française ? Et si elle renvoyait davantage à une violence d'époque, liée à la perception d'un déclin, déclin d'un Occident dépassé par les nouveaux pôles de puissance, par la révolution numérique ? Violence d'époque liée à une multiplication des frustrations, ces passions tristes qu'analysait si bien le sociologue François Dubet dans son dernier livre, Dubet pointant la violence d'un média, Internet, qui donnant à chacun la capacité de dire publiquement ses émotions et ses opinions, faisait de chacun de nous un militant de sa propre cause, un quasi-mouvement social à soi tout seul. Violence française, violence d'époque, à moins qu'il ne s'agisse du retour d'une violence d'autrefois. Hypothèse que faisait cette semaine le philosophe Michael Fessel dans son livre « Récidive », qui démontrait qu'il existait, entre 1938 et 2019, des sonorités communes, des échos, notamment dans cette hostilité aux étrangers, assumée par les nationaux populistes d'hier comme d'aujourd'hui au nom du pragmatisme. Bref, on s'en remettait aux intellectuels pour mettre des mots sur ce malaise profond que provoquait ce retour de la violence. À l'Élysée lundi, on avait donc écouté la soixantaine d'éminents cerveaux venus dialoguer avec le chef de l'État, succession enrichissante de grilles de lecture sur ces temps agités que nous vivions, sauf qu'à la fin, le livre était toujours aussi triste.
Comment répondre à cette anarchie croissante qui fait de la France un pays en état de quasi-guerre civile larvée, où la haine de tous contre chacun semble désormais triompher.
Les autres, c'est qui ? Les autres, c'est les fils de prolos qui sont allés s'acheter une maison dans le périurbain depuis 50 ans. C'est eux qui sont en révolte, c'est pas les populations locales traditionnelles. Ces gens-là, ils ont voulu sortir des HLM, ils ont voulu quitter la mixité sociale, ils ont voulu devenir propriétaires, ils ont voulu continuer la promotion sociale de leurs parents qui naient de la campagne ou de l'étranger. Ces gens, ils avaient réussi leur vie. Et ces gens-là, d'un coup, leur dit « Vous êtes nuls, faut circuler en vélo, faut être écolo. » Excusez-moi, monsieur le Président, mais enfin, vous avez mis du sel dans la plaie.
Voilà, vous aurez peut-être reconnu les voix du philosophe Pascal Bruckner et du sociologue Jean Viard. Thierry Pêche et Dominique Régnier, vous étiez, si je ne m'abuse, à l'Élysée lundi soir. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'un président de la République qui savait d'où venait cette violence que nous essayons d'analyser ce matin et qui prétendait savoir comment la résoudre, Dominique Régnier ?
Président qui savait d'où vient cette violence, je dirais pas plus que nous, parce que c'est une situation inédite. On peut chercher dans l'histoire des mouvements sociaux, des mouvements collectifs de notre pays, on ne trouve pas, non pas la violence, mais on ne trouve pas cette forme de mouvement qui est initiée par des causes, des revendications particulière, identifiée au moment de la naissance, en particulier pour l'acte 1 le 17 novembre, l'excès de prélèvements obligatoires, la taxe carbone mêlée, et de l'autre côté, l'excès de réglementation, la question des 80 km/h, tombée un peu comme ça, de manière très directive depuis Paris. Mais Surtout, c'est l'après qui devient énigmatique, parce que ça, c'est des revendications, on peut discuter. L'après, ça devient énigmatique parce que c'est un mouvement qui ne veut pas avoir de représentants, qui ne veut pas avoir de programme, qui ne veut pas avoir d'organisation. C'est le dégagisme après le dégagisme. Ce ne sont plus simplement des partis que l'on a dégagés pour mettre à la place de nouvelles formations politiques. C'est toute formation politique qui devient discréditée presque a priori. Et conséquemment, me semble-t-il, une situation inédite qui appelle à une réflexion qu'il est compliqué de mener. Mais c'est sans doute une cause de cette violence étrange qui surgit que d'avoir ainsi dégagé toute une série d'institutions chargées de représenter, de faire porter un discours, de lui donner une forme, de désigner des interlocuteurs avec lesquels on peut parler, cette espèce de mise à plat qui est une cause mécanique, je dirais, du passage à la violence. Et c'est pour ça que nous sommes, et je pense le président aussi, tous dans une forme de désarroi intellectuel. Comment saisir ce mouvement, ça c'est une question, mais comment en sortir, ça en est une autre, et sans doute plus urgente et en même temps plus compliquée.
C'est ce désarroi aussi que vous avez entendu Thierry Pêche lundi soir à l'Élysée.
Alors on n'était pas venu écouter le président de la République, c'est le président de la République qui était venu nous écouter.
Vous avez entendu le désarroi des intellectuels ?
Le désarroi des intellectuels ne saute pas aux yeux, si vous voulez. C'est des gens qui sont plutôt très étrangers sociologiquement à ceux qu'on a vus se réunir sur les ronds-points ou défiler sur les Champs-Élysées. Mais les deux extraits que vous avez fait entendre sont très illustratifs de deux aspects du problème. Jean Viard parle de la France périurbaine, populaire, petite classe moyenne, celle qu'on a vue sur les ronds-points à la fin de l'automne et cet hiver. Et Pascal Bruckner, lui, parle de ceux qui cassent dans les centres-villes, et en particulier à Paris et à Bordeaux. Et je pense que c'est pas simplement deux aspects d'une même chose. En réalité, ce sont deux choses assez différentes. Et c'est ça qui, aujourd'hui, me semble frappant. On a eu un mouvement au début qui révélait un certain nombre de questions sociales qui étaient trop longtemps passé inaperçu ou qui trop longtemps n'avait pas eu d'autres porte-voix que des représentants plus ou moins ventriloques et lointains. Ça, c'était cet hiver, c'était l'automne, c'était les ronds-points. Et puis, dans le même temps, s'est enclenchée une autre forme d'expression à Paris, sur les Champs-Élysées, à Bordeaux et dans d'autres villes de France, mais ces deux-là ont été particulièrement marqués, où là, la population n'est pas tout à fait la même. Elle est tout de même plus jeune, elle est moins féminisée, etc., etc. Et elle ne se comporte pas de la même façon. Et lundi soir, en fait, on était dans le cadre du grand débat. Le grand débat, il a quelle fonction? Il a précisément pour fonction de transformer la colère sociale en délibération collective. Et il y a un certain nombre de gens qui ont dit, OK, on vient discuter avec vous les maires ou avec vous, entre nous aussi. Bon, et donc les intellectuels se sont vus proposer de participer à ça aussi, c'est ce que nous avons fait. Mais il y a aussi des gens qui refusent catégoriquement cette délibération et qui sont dans une dynamique de montée des tensions, d'escalade. C'est ça le cœur de la violence. Bon, parce que la démocratie, elle a précisément pour fonction de métaboliser la colère et la violence et d'en faire quelque chose qui est de l'ordre de la délibération. Il y a un grand politiste qui a écrit il y a très longtemps un livre sur l'opinion publique, il est à cette table, c'est Dominique Régnier, il y a bien longtemps, où il expliquait, je m'en souviens, parce que j'avais lu ce livre au moment de sa sortie, l'espace public, c'est pas une place publique. Sur la place publique, il y a des corps, des passions qui s'affrontent sans médiation. L'espace public, c'est une construction assez sophistiquée, à l'intérieur de laquelle on a des médiations, on a des journaux par exemple, on a des partis politiques, des porte-paroles. Bon, et ce qui est profondément et manifestement refusé dans les actes violents qu'on a vus se déployer la semaine dernière et les semaines précédentes, c'est l'espace public. Et c'est ça qui est très grave.
Au fond, Aurélie Filippetti, cette semaine, la question c'est toujours de se demander d'où vient cette violence ou comment on en sort.
Il y a confusion sur le mot violence. Et évidemment, tout le monde condamne les violences, les dégradations physiques, matérielles. Mais au fond, je trouve que ça fait écran de fumée sur ce qui est au fond à l'origine de ce mouvement et de cette colère populaire, au sens où le peuple est un corps politique qui a besoin aujourd'hui de s'exprimer et qui ne se sent plus représenté par ceux qui sont censé, normalement, justement, lui servir de porte-parole et de porte-voix. Et au fond, pour moi, et encore une fois, je ne veux pas qu'on me fasse le procès de ne pas condamner la violence matérielle, ce que je fais, mais on oublie trop souvent que la violence sociale qui est exercée vis-à-vis des classes populaires, la violence politique de certains discours qui ont pu être tenus, notamment par le président de la République, qui a encore utilisé lors du débat avec les intellectuels l'expression, par exemple, d'aristocratie égalitaire, en disant, et non pas pour le déplorer, en disant finalement la France est une aristocratie égalitaire. Sous-entendu, c'est très bien comme ça, et donc je ne veux pas que l'État ait à mettre les mains dans la question de la lutte contre les inégalités. Mais ça, c'est d'une violence inouïe. C'est un discours qui est une gifle dans la figure des classes populaires.
Alors Dominique Régnier n'a pas entendu la même chose que vous.
Absolument, à aucun moment. Je suis resté 8h10, la durée entière de l'événement, sans fermer un œil à aucun moment.
Bravo.
Ce qui me fait un point commun. Absolument, c'était passionnant. Et vraiment, je peux vous assurer, Aurélie, que jamais je n'ai entendu cette phrase-là qui aurait fait se réveiller tout le monde.
Bon, alors, si vraiment, elle a été prononcée, elle a été reprise. Alors peut-être que c'est... On vérifiera si c'est une fake news, mais de toute manière, l'esprit de ce qui a été prononcé au cours des derniers mois et que ça tout le monde a entendu sur les chômeurs qui doivent traverser la rue pour trouver un emploi, etc., etc., ça, c'est une réalité, ça, c'est pas une fake news. Et au fond, ce qui est ressenti, c'est que oui, pour aujourd'hui, le président, ceux qui nous gouvernent, etc., le fait d'assumer un côté très aristocratique de notre pays, oui, c'est normal. Et dans ce sens, on ne va pas aller contre ce mouvement de creusement des inégalités qui pourtant, est justement ce qui, pour les Français, devrait être l'essence de la politique menée. Donc là, pour moi, cette violence-là, violence politique, violence sociale vis-à-vis des classes populaires, elle est de plus en plus insupportable. Et d'autant plus qu'elle s'inscrit dans un contexte qui n'est pas que français, mais qui est évidemment mondial et qui s'exprime avec la même violence, si ce n'est pire, vis-à-vis des classes populaires de l'ensemble de la planète. Alors, je trouve qu'on ne parle pas assez de ça. Je pense que ça, c'est le cœur aujourd'hui de la crise de la représentation, au sens où les gens ont l'impression, finalement, d'une forme de nouvelle trahison des clercs. Ceux qui doivent les défendre, ceux qui doivent porter l'intérêt général, au fond, ne défendent plus que leurs propres intérêts de classe. Et ça, oui, c'est insupportable.
Donc, à la question d'où vient la violence, il y a comme réponse une pratique du pouvoir, Christine Ockrent.
Oui, en venant à l'Odéon, au théâtre de l'Odéon, j'ai trouvé particulièrement savoureux de voir les drapeaux chinois arborés sur le frontispice du Sénat. Donc, justifier la violence...
Expliquer pourquoi il y a le drapeau chinois en ce moment,
parce qu'il y a la visite officielle du président Xi Jinping. Donc, on voit le drapeau chinois, on voit évidemment le dispositif policiers, gendarmes, etc. Et donc, cette idée, Aurélie, de justifier la violence par la violence de l'État dans un système démocratique, alors que on a, encore une fois, ce privilège par rapport à d'autres systèmes, et notamment la République dite démocratique de Chine. Enfin, je trouve en tout cas qu'il y avait là une ironie de la situation particulière. Cela dit, dans cette question de la violence, me semble-t-il, ce qui est troublant, c'est qu'il y a le ressenti des inégalités sociales, jugées aujourd'hui comme insupportables par une partie de la population, et c'est bien ce cri-là qu'on a entendu dans les ronds-points. Ce qui, moi, me trouble, c'est de voir que ceux-là même qui crient en fait leur désarroi, leur colère, ceux qui ne se reconnaissent plus dans la démocratie représentative, ils adhèrent, semble-t-il, presque avec admiration, ils applaudissent à la violence de gens qui ne sont pas eux, qui sont cette espèce de mélange rouge, brun, black, ces gens qui viennent casser.
Mais personne n'a applaudi.
Non, il faut pas non, non, mais quand on voit, pardon.
Personne n'a applaudi.
Si, on a vu et entendu. Non,
personne
des
n'a
gens
applaudi à la violence ou au casseur.
Si, pardonnez-moi. Oui. Et quand on voit, mais faisons-nous des sondages, mais quand on voit qu'il y a à peu près 44% des Français, donc au-delà des Gilets jaunes, qui au fond approuve cette violence, qui considère que c'est finalement légitime.
Il faut de la casse pour être entendu. Voilà. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup
cela,
dans la France de 2019.
Moi, qui me trouble profondément, parce que il y a certes le ressenti des injustices, mais il y a aussi la comparaison entre notre pays et d'autres pays d'Europe. Je ne parle même pas du reste du monde, ce serait trop facile, où l'on voit que contrairement a beaucoup d'idées reçues, les inégalités sont moindres chez nous. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas insupportables pour les gens qui s'en sentent victimes. Mais encore une fois, moi, ce qui me trouble au plus profond, ce sont ces 44% de Français qui, loin de condamner la violence, appelons-la physique, la destruction pure et simple, la destruction d'un kiosque à journaux, je veux dire, en quoi est-ce que c'est un moyen de se faire entendre ? C'est triplement symbolique. Et donc, par rapport à cela, je trouve que dans cette... Il y a la violence d'un côté, elle est vieille comme le monde, mais c'est plutôt cette adhésion à la violence, cette acceptation, sinon ce soutien à la violence physique qui me semble très particulièrement française et qui sûrement a des racines historiques, sociologiques diverses.
Il faut casser pour être entendu aujourd'hui, c'est ce que l'on entend beaucoup encore. Vous êtes applaudie, Christine Ockrent. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui, Thierry Pech, à une forme de nihilisme? Au fond, comme l'a dit d'ailleurs, je crois, le président de la République lundi soir, ceux qui en ce moment continuent d'aller dans la rue ne savent plus très bien pourquoi ils y vont, ou est-ce qu'en effet il y a encore des revendications, une exaspération par rapport au pouvoir qui peut encore se traduire, se matérialiser en revendications précises et concrètes et objectives?
Moi, je ne vois pas de continuité entre la violence sociale, des inégalités dont a parlé Aurélie, et la violence des rues. Je pense que la violence des rues n'est certainement pas la coucheuse de l'histoire, pour reprendre une phrase de Marx, en l'occurrence aujourd'hui, et qu'après la trahison des clercs, on risque d'avoir la trahison des radicalités. Les gens qui étaient sur les ronds-points, encore une fois, je ne parle pas des Champs-Élysées cet automne et cet hiver, et qui montraient le visage de leurs difficultés, que ce soit des mères isolées, des employés, des retraités, etc. Je ne les vois pas aujourd'hui sur les Champs-Élysées, ou beaucoup moins. Et donc je pense qu'il y a une discontinuité. La situation présente me fait penser quand même un peu à ce qui s'est passé en Italie dans les années 70. J'ai relu une très bonne tribune de Marc Lazare qui avait été publiée au moment des manifestations contre la loi El Khomri en 2016. Le parallèle a ses limites. Mais en Italie aussi, les radicalités violentes sont nées dans le berceau des mouvements de rue. Et puis... et dans le berceau de cette empathie, de cette zone grise, qui faisait qu'un parti de la population, de l'opinion, soutenait les manifestations et les violences qui les accompagnaient. Et puis le mouvement s'est essoufflé, et les radicalités violentes ont continué à essayer de maximiser la violence pour ranimer le mouvement, n'y sont pas arrivées, et à un moment donné, elles se sont structurées dans la violence. Elles sont sorties des rues pour entrer dans des stratégies d'assassinat, de tirs de balles dans les jambes des gens dans la rue, de bombes dans les lieux publics. Et la France n'a jamais connu ce processus qu'ont pu connaître l'Italie, l'Allemagne au temps de la fraction armée rouge, l'Espagne dans d'autres circonstances, autant de pays qui avaient connu des expériences fascistes, je le dis au passage d'ailleurs. Mais enfin, on n'est pas forcément à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri d'un moment où, loin d'exprimer et de formuler les violences sociales dont parlait Aurélie, des radicalités s'organiseraient pour survivre dans la violence déterminée et presque théorisée. L'histoire est riche d'enseignements là-dessus. Alors la France, contrairement à ce qui a été suggéré à l'instant par Christine, n'a pas un grand passé en cette matière, beaucoup moins que certains de nos voisins que je viens de citer. Mais c'est peut-être pas nécessaire d'avoir un héritage pour connaître ce type de dérive.
Aurélie Filippetti. Moi, je ne voudrais pas quand même, encore une fois, j'ai l'impression que finalement, les casseurs, pour simplifier, ça arrange bien tous les réactionnaires de ce pays et tous les conservateurs de ce pays. Parce que, au fond, ça légitime un discours ultra répressif dont on n'a pas non plus le souvenir en France depuis un certain temps. Hein, et qu'est-ce qui s'est passé entre le début novembre et aujourd'hui pour que justement, finalement, les gens lambda, la classe moyenne, etc., soient obligés, soient chassés des cortèges ou des manifestations des Gilets jaunes? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un mouvement de répression sans précédent, avec usage d'armes.
Donc c'est la répression qui génère le degré de violence?
Mais je dis
c'est
pas ça,
que vous dites aujourd'hui.
Je dis juste que quand on chasse les gens qui ont peur maintenant d'aller manifester leur mécontentement social, quand ils ont peur de se retrouver face à les fameuses LDB qui vous arrachent un œil et face auxquelles des centaines d'ophtalmologues ont dit il faut interdire ces armes, etc. Non.
Les LBD qui expliquent le niveau de violence auquel on
assiste. Est-ce qu'on peut parler de la violence qui s'est exercée vis-à-vis des manifestants?
Je
dis juste que quand les gens maintenant qui n'étaient pas au départ violents ne peuvent plus aller dans les manifestations parce qu'ils ont peur, parce que aujourd'hui, franchement, pour avoir le courage, par exemple, aujourd'hui d'aller manifester à Paris avec le dispositif ultra répressif qui a été mis en place.
Il ne reste ici un cortège légal avec un tracé. Il y a peut-être 2000 personnes dans la rue et personne n'a peur de le rejoindre. Les gens ont peur d'aller là où il y a de la violence, où les manifestations ne sont pas légales. C'est pas du tout la même chose.
Les accidents qui ont eu lieu à cause des LDB, pour lesquels d'ailleurs la France maintenant est quand même regardée, y compris par l'ONU, etc., comme un pays où on utilise des armes que personne d'autre, à part les pires dictatures, n'utilise dans le monde. Enfin, il faut quand même rappeler cette violence physique qui a été exercée vis-à-vis de manifestants qui n'étaient pas des casseurs. Donc aujourd'hui, s'il reste seulement des casseurs dans les cortèges, je suis désolée, c'est peut-être aussi le fruit de ça. Quand on criminalise à l'extrême le mouvement social, parce que c'est ça qui est en train de se passer, au fond, le discours sous-jacent de tout ça, c'est classe laborieuse, classe dangereuse, le fait que des gens aient voulu justement reprendre la parole politiquement et dire un certain nombre de choses, c'est insupportable pour aujourd'hui les classes dirigeantes qui s'arrogent le monopole finalement de la défense de l'intérêt général, de « ah mais nous on sait ce qui est bon pour le pays, etc. »
Et
on
ne veut pas... Donc la démocratie représentative n'a plus aucun sens mais bien pour entendu, une ancienne élue de la République.
Ce qui est demandé par les gens, c'est de la démocratie représentative avec des gens qui vous représentent vraiment et qui représentent l'ensemble de la population et pas seulement les plus privilégiés. Pourquoi quand les gilets jaunes demandent par exemple la suppression de l'ISF, on n'a même pas le droit d'en parler, même pas le droit d'en débattre. On n'a même pas le droit d'en débattre à l'Assemblée nationale. Le président de la République a dit circuler.
Sur le sujet de l'ISF, au moins c'est concret, c'est précis, allons-y. Thierry Pache, est-ce qu'en effet on ne peut pas parler de l'ISF dans ce débat?
On n'arrête pas d'en parler.
Ah ben oui, mais sauf que ça ne débouchera sur rien. Il a dit ça, c'est no way.
Je ne sais pas où vous vivez. Il y a des débats tous les soirs dans ce pays où tous les soirs on parle de la fiscalité, où tous les soirs on parle de l'ISF.
Le
fait que le président de la République n'ait pas ouvert la porte à ça n'empêche personne d'en parler. On est dans une démocratie. Tout le monde peut en parler.
Tout le monde peut en parler.
Et d'ailleurs, vous voulez qu'on en parle? Parlons-en. J'ai aucun problème avec ça.
Tout le monde peut en parler. Et d'ailleurs, tout le monde en parle. C'est l'un des sujets qui arrive en tête des revendications des Gilets jaunes et de ceux qui participent au grand débat. C'est l'un des sujets qui arrive en tête, sauf qu'il y a déjà eu une fin de non-recevoir de la part des Gilets jaunes.
S'il vous plaît, on fait tourner la parole. Vous l'aurez compris que nous sommes en enregistrement de cette émission un samedi, qui sera donc diffusée le dimanche à 11h, comme toujours sur France Culture. Dominique Régnier, est-ce que vous parleriez, comme Aurélie Filippetti, de criminalisation du mouvement social, et comment réagissez-vous à ce qui vient d'être dit?
Bien sûr, je ne parlerai pas de criminalisation du mouvement social. Ce que j'ai entendu ne correspond pas à ce qu'est notre pays, un état de droit, une démocratie. Et ce serait trop, pour moi en tout cas, trop triste d'assimiler un pays comme le nôtre à des pays où véritablement, effectivement, on enferme et on tue des opposants. Donc là, je serais vraiment, moi, très, très à distance de ce type de diagnostic. Le problème avec les gilets jaunes, on le voit maintenant et on le sait tous, c'est toujours ce prix très élevé à payer lorsque l'on ne veut pas de représentants, lorsque l'on ne veut pas d'organisation. Les gilets jaunes, vous le savez bien, ça n'existe pas. Il y a des gilets jaunes. C'est très difficile de parler d'eux. Et à l'instant, Aurélie, ce que vous venez de dire sur leurs préférences, personne ne le sait. Il est impossible de savoir ce que pensent les Gilets jaunes. Il est impossible de savoir quelles sont leurs préférences. Certains sont très hostiles au niveau des prélèvements obligatoires et souhaitent qu'il y en ait moins. D'autres imaginent un référendum d'initiative citoyenne et ce ne sont pas les mêmes. D'autres encore ont une tendance volontiers proche de ce que l'on pourrait qualifier d'extrême droite, ce ne sont pas les mêmes. Il y a toute une pluralité et la difficulté, c'est qu'à ne pas vouloir s'organiser, encore une fois, on en parle nécessairement injustement. Moi, je ne les mélangerai pas entièrement avec les casseurs, mais en partie, oui. En partie, oui, malheureusement. Certains gilets jaunes se sont mis à casser. Sans aucune justification recevable. Aucune. Il y a suffisamment dans notre pays de moyens d'expression. Nous n'avons jamais été en mesure dans notre histoire de voter aussi souvent pour désigner démocratiquement autant de pouvoir, qu'il s'agisse de la sphère politique, de la sphère sociale et même du monde associatif dans lequel nous sommes très généralement largement engagés. Nous n'avons jamais eu autant de facilité pour dire ce que nous pensons. Et lorsque les élites représentent mal le peuple, pour reprendre cette formule rapide que j'utilise là, je veux dire rapidement, eh bien, nous avons, et c'est nouveau, nous avons des réseaux sociaux, il y a 55 millions de Français qui sont internautes, il y a 33 millions de Français qui ont des comptes actifs sur les réseaux sociaux. Jamais nous n'avons eu autant la possibilité de dire précisément ce que nous pensons individuellement. Je crois même que pour la première fois dans l'histoire des médias, nous avons un public composé de médias. Ce qui est assez difficile à imaginer. C'est ce qui nous est arrivé avec le fait que chacun peut émettre son point de vue sur la situation. Et ce qui serait nécessaire, hein, c'est que les Gilets jaunes, mais je crois qu'ils ne le feront pas, arrivent à s'organiser pour exactement nous dire qui n'est pas du côté de la violence, qui l'accepte, quel est le programme de l'un, quel est le programme de l'autre. Moi, je dirais volontiers, Gilets jaunes de tous les ronds-points, unissez-vous, hein, formez une organisation avec laquelle on pourrait discuter. C'est ce qui rend la violence inévitable. La violence est devenue le motif de ces réunions. C'est parce qu'il n'y a pas de revendication convergente. Aurélie, vous avez en partie raison, je trouve, moi, sur le fait que une fraction de la société française réclame une pression fiscale supplémentaire sur les plus hauts revenus. Ça me paraît incontestable, ça. Mais je pense qu'il y a une autre fraction qui réclame une baisse de la pression fiscale. Ça n'est pas pour dire qu'il y a un partout, c'est pour dire que le problème de la politique du commun auquel nous tenons, c'est qu'il nous faut avec ça fabriquer un compromis, trouver une ligne médiane, arriver à n'humilier personne et à n'ignorer personne. Ça suppose encore une fois, et je termine par là, des personnes avec lesquelles discuter. Et les seules, quel paradoxe, les seules figures les plus visibles chez les Gilets jaunes, non seulement ils n'ont jamais été élus par personne, mais leur raison d'être visibles, c'est qu'ils sont les plus présents dans les médias qu'ils critiquent, alors même que tout cela nous dise, ce qui serait très beau, c'est la démocratie directe. Il n'y a rien qui est cohérent dans tout cela.
Alors il y a quelque chose qu'on entend de semaine en semaine, Aurélie Filippetti, chez tous les Gilets jaunes, c'est peut-être leur point commun à tous, il faut qu'Emmanuel Macron parte. C'est cela qu'on entend. Il y a eu les mesures annoncées, 10 milliards d'euros, il y a eu le lancement de ce grand débat national, et puis il y a toujours cette revendication, Aurélie Filippetti. Vous avez été députée, vous avez été ministre de la République, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour sortir de cette violence confrontée à cette situation-là, à cet état des lieux-là?
Si je le savais.
Vous avez cité l'ISF, non, par exemple.
Je pense qu'il y a une profonde aspiration, fondamentalement, à une démocratie beaucoup plus, beaucoup plus directe au sens presque rousseauiste du terme, beaucoup plus en rhizome, comme aurait dit Gilles Deleuze, par exemple. C'est-à-dire, au fond, qu'il y ait des instances qui permettent aux gens, là où ils vivent, là où ils travaillent, eh bien, de participer à la vie de leur pays ou à la vie locale, etc.
Et ça ne peut pas être la fonction du grand débat. Ça ne peut pas être la fonction du grand débat national.
Non, parce que le grand débat, est devenu finalement un exercice que le président de la République a retourné à sa propre gloire, où en fait c'est devenu presque un happening permanent du président de la République. Alors on a le président de la République qui va s'exprimer 8 heures devant des maires, 6 heures ou 9 heures devant des intellectuels, ensuite devant des agriculteurs. Bon, c'est la démocratie participative, ce n'est pas ça. La démocratie participative, c'est plutôt des gens qui se réunissent et qui eux s'expriment.
Quand on lit l'édition 2019
avec la démocratie représentative.
Quand on lit l'édition 2019 de l'Observatoire de la démocratie, il y a une majorité de Français interrogés qui disent qu'ils sont satisfaits de cette parole qu'on leur donne dans le cadre de ce grand débat. Il y a une méfiance, mais il y a quand même une satisfaction de participer.
L'organisation d'un débat démocratique ouvert à tous, ça c'est une bonne chose. Après, ce que je regrette, c'est que c'est la manière dont finalement ça se transforme, encore une fois, en un exercice à la gloire d'Emmanuel Macron. Moi, je regrette ça. Ou je pense que c'est pas le rôle ni des ministres, ni du président de la République, d'aller parler, qu'ils doivent aller écouter, pas aller parler, pas aller donner leur avis, et pas au fond dire, ben voilà moi ce que je pense. Parce que justement, ce que les gens veulent, c'est qu'on écoute ce que eux pensent.
Alors,
ce que eux ont à dire.
Christine O'Krent
et Thierry Pêche. Pas de réponse, on n'est pas content non plus. Mais moi j'aimerais revenir, Émilie, à la question que vous avez posée dès le départ, qui est la question de la violence. Parce qu'il me semble que c'est ce qu'il y a de plus préoccupant dans notre société aujourd'hui. Et vous avez cité, bien évidemment, Dominique aussi, l'incroyable puissance des réseaux sociaux, la démultiplication, non seulement du verbe, mais de l'image.
Qui fait de chacun un quasi-mouvement social à soi tout seul, dit François Dubé aujourd'hui, référence
oui,
aux réseaux sociaux.
Mais qui aussi véhicule l'image et transforme l'image. L'image n'est jamais innocente, elle n'est jamais neutre. La violence de l'image. Je fais juste une digression, mais je crois qu'elle n'est pas tellement éloignée de notre sujet. Vous savez ce que le président turc, qui est en campagne pour des élections locales, vous savez ce qu'il fait dans ses meetings électoraux depuis quelques jours? Il diffuse en boucle les images de la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Autrement dit, l'image, alors de violence atroce, pure, à l'état brut, mais une violence qui, il faut le rappeler, et surtout au moment où on commémore aussi l'attentat de Trèbes. Il y a une violence que l'islamisme revendique comme étant purificatrice. Donc, il me semble que dans la société d'aujourd'hui, qui est compressée par les réseaux sociaux, qui est mondialisée par les réseaux sociaux, avec cette utilisation et cette exploitation de l'image de la violence, il y a non seulement une exaltation, mais il y a une esthétique et une éthique de la violence. Et ça me semble beaucoup plus dangereux encore que les questions, même si elles sont légitimes, faut-il ou non revenir augmenter l'ISF ou tel autre système de taxation. Mais il me semble qu'il y a, au niveau de notre monde aujourd'hui, cette question qui devient véritablement essentielle, c'est que cette violence-là, on ne la maîtrise pas, et qu'elle fait des émules, et qu'elle fait des émules sous tous les masques et sous toutes les couleurs.
Thierry Pêche.
Je voudrais poursuivre la discussion avec...
Nous sommes au théâtre de l'Odéon.
J'essayais de répondre à la question de la violence. Si on veut reparler encore une fois, du débat, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il y a trop de Macron, pas assez de Macron, etc. On peut, je veux dire, ça nous occupe jamais que depuis
un certain nombre
de semaines.
De moi, même si la question
je sais pas comment je dois le prendre.
même si la question de cette violence était aussi au cœur de ce débat entre Emmanuel Macron et les intellectuels. Thierry Pêche, je voulais répondre à Wally Filippetti.
Oui, je voulais poursuivre la discussion avec Aurélie. Je lui rends tout de suite deux points, et elle a raison sur l'usage d'un certaines armes par la police française. C'est pas le fait des individus, c'est le fait d'une doctrine de maintien de l'ordre qui ne va pas et qui est légitimement critiquée dans les enceintes internationales. J'ai aucune réserve là-dessus et je vous suis parfaitement. J'ai pas de réserve non plus sur la sympathie que vous exprimez à l'égard d'une démocratie plus participative qui articulerait mieux, je crois que c'est le sens de ce que vous pensez, en tout cas c'est ce que je défends également, représentation et participation et délibération, et qui ne se construirait pas uniquement autour du personnage du président de la République. Là-dessus, je vous rejoins. Mais
je ne peux pas vous rejoindre sur cette idée qui était le commencement de votre raisonnement. Il y a une violence sociale qui serait la racine de la violence de rue qu'on observe. En tout cas, je pense que c'est un raisonnement qui a une limite qu'on rencontre très rapidement. Je vous rappelle, le 17 novembre, pas un blocage en Seine-Saint-Denis. Le département le plus pauvre de France, qui cumule le plus grand nombre de difficultés. Pas un blocage, pas une manifestation. Les quartiers politiques de la ville sont restés totalement en marge de ce mouvement. Alors pourquoi, là, il n'y aurait pas aussi une convergence dans le mouvement?
En fait, la question que vous posez, c'est la question de la légitimité de cette violence. Non, au fond, est-ce qu'il y aurait une violence légitime?
Non, je dis qu'il n'y a pas de continuité entre la violence sociale et la violence de rue, que ça, c'est une illusion de l'esprit. C'est ce point qui nous sépare là aujourd'hui, et c'est ce point que j'essaye d'argumenter. Par ailleurs, Dominique a parfaitement raison de dire qu'il n'y a pas les gilets jaunes, il y a des gilets jaunes. C'est tellement vrai que la violence s'exerce entre eux. Entre eux, je veux dire, Éric Drouet a vu sa maison peinte en jaune, les gens qui défilent à quelques encablures d'ici et qui refusent les manifestations illégales sur les Champs-Élysées se font agresser par les autres, ils s'engueulent toute la semaine sur les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est pas un mouvement, ça n'est pas vrai, c'est une franchise qui est déposée nulle part et que chacun endosse avec ses récriminations, avec sans doute ses souffrances de temps en temps aussi, bien sûr, mais je veux dire, ça n'a pas de signification cohérente. Et dès lors que ce mouvement en cherche une, cherche à s'institutionnaliser, fait une liste pour les européennes, ça ne dure pas plus de 15 jours, parce que dès lors, les gens qui ont pris cette initiative sont sous le feu de la critique, et pas simplement de la critique verbale, des autres gilets jaunes. Donc, on n'en sort pas. Moi, je pense que le danger qu'on court aujourd'hui, c'est de voir des groupuscules se structurer dans la violence dès lors qu'ils ne trouveront plus appui dans la rue sur des cortèges.
Conclusion sur cette première partie, Aurélie Philippetier et Dominique Régnier.
Je ne fais pas du tout l'apologie de la violence. Au contraire, je trouve, et je l'ai dit, je trouve que c'est un piège contre le mouvement social. Pourquoi? Pour la bonne raison, et on en a la preuve maintenant, que justement, on ne parle plus que de ça. Et on oublie ce qu'il y a derrière, au fond, c'est-à-dire une colère contre des inégalités. Je pense que, par ailleurs, la stratégie de la non-violence, en l'occurrence dans les régimes démocratiques, des mouvements...
Et on va en parler juste après dans notre deuxième partie.
Comme l'avait théorisé Gandhi, etc., et tous les penseurs de l'écologie politique dont on va parler ensuite, la théorie de la non-violence en démocratie, c'est toujours une bien meilleure méthode, une bien meilleure tactique. Parce que justement, on ne donne pas ainsi d'armes rhétoriques...
On le voit en Algérie aujourd'hui,
oui,
ce que vous dites.
Oui, d'accord. Mais c'est encore plus vrai en démocratie, parce qu'effectivement, il y a aussi des moments, il y a des régimes dictatoriaux par rapport auxquels la non-violence...
Il y a la peur en Algérie qui fait qu'aussi on défile le plus paisiblement possible.
Ce que je veux dire, c'est que parfois, face à des régimes dictatoriaux, la non-violence ne marche pas. C'est ce que les théoriciens de la non-violence, d'ailleurs, disaient à Gandhi, oui, mais par exemple, face à Adolf Hitler, la théorie de la non-violence n'aurait pas marché. Et évidemment, ça n'aurait pas marché. Mais dans une démocratie, ça marche. Et c'est beaucoup plus efficace. Donc moi, je suis même tout à fait, je dirais, une défenseur des théories de la non-violence. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec les jeunes, là, en ce moment, ce qu'ils font est formidable sur l'écologie. Simplement, je dis, on oublie trop, justement, cette violence qui s'exprime dans des discours et dans des actes et dans des politiques qui sont mises en place et qui provoquent chez les gens des classes populaires et des classes moyennes, eh bien, un désarroi, une colère et un sentiment d'être prise à la gorge face auquel, au fond, ils ne se sentent plus représentés ni défendus.
Et inversement, et ce sera la dernière question de cette première partie, Dominique Régnier, est-ce qu'il y a une banalisation, une légitimation de la violence en ce moment par certains leaders politiques? Est-ce qu'elle continue, cette légitimation et banalisation-là?
Alors, on peut considérer, c'est mon cas en tout cas, que beaucoup de responsables politiques, précisément, font preuve d'irresponsabilité, en ne condamnant pas de manière suffisamment ferme et même parfois en laissant penser qu'ils approuvent ou comprennent la violence. J'étais frappé, bien sûr, vers l'esprit le cas de Jean-Luc Mélenchon et de France Insoumise de manière générale. On remarquera d'ailleurs que Marine Le Pen est beaucoup plus habile dans cette affaire, puisque elle fait valoir régulièrement sa sympathie pour les Gilets jaunes sans prendre le risque de donner l'impression de cautionner des comportements qui pourraient inquiéter son électorat. Une espèce de ruse et d'habileté qu'il faut souligner. si on évoque la question de la violence et ses causes, on ne peut pas peut-être ne pas insister sur un point qui nous concerne tous, qui est que la violence est médiatique. Cela aimante la caméra, la photographie sur les réseaux sociaux, et que c'est aussi une espèce de pli que de recourir à la violence comme média, soit pour elle-même, soit pour forcer le passage dans la représentation médiatique, et s'assurer une place éminente, parce que nous offrons, en contrepartie de l'intérêt, des images spectaculaires.
Merci. Alors on va à présent essayer d'oublier cette violence et de parler d'un autre combat qui s'exprime, lui, vous l'avez dit, Aurélie Filippetti, de façon totalement différente, celui pour la stabilisation du climat et qui pose la question « Un autre nous est-il possible ?»
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
C'était il y a 8 jours ce qui semblait une éternité dans cette actualité française si chaotique. 100 000 personnes selon les organisateurs, sans aucune violence, 36 000 selon la police étaient descendues dans la rue pour la marche du siècle, au lendemain d'une marche des lycéens, dans le cadre de l'appel à la grève mondiale pour le climat lancé par Greta Thunberg, jeune Suédoise au visage poupin dont la légende disait qu'elle avait démarré son combat à l'été 2018 seule, armée d'un morceau de carton en guise de pancarte, campant devant le Parlement de Stockholm des jours durant, en signe de protestation contre l'inaction de son pays face au réchauffement climatique. On avait retrouvé Greta Thunberg un mois plus tard au sommet de Davos, se confrontant cette fois aux grands acteurs économiques mondiaux, puis à la conférence de Katowice en Pologne, organisée par l'ONU sur le climat. Icône instrumentalisée, disaient certains, étonnant symbole, disaient les autres, d'une génération prenant conscience de façon spectaculaire d'un danger imminent, celui que ne voulaient pas voir les générations du dessus. Il s'agissait bel et bien d'un phénomène d'époque, une génération pour qui la préoccupation environnementale arrivait à égalité avec celle de l'emploi, une génération qui, elle, était réceptive au message des scientifiques, des jeunes qui ne s'en remettaient pas à des solutions nationales, mais se situaient directement sur un plan mondial et planétaire. Une génération qui savait donc enfin sortir de cette inertie climatique qu'analysait dans le journal Le 1 de la semaine précédente le psychiatre Christophe André. Une génération sensible aux chiffres des scientifiques, mais capable aussi de les transformer en vidéo, en contenu pour réseaux sociaux, en images frappantes, bref, en storytelling. Avec eux, peut-être enfin, la prise de conscience écologique pouvait bel et bien devenir spectaculaire.
Nous, on pense qu'en tant que jeunes, on a une légitimité par le fait que c'est notre avenir que ça touche, c'est nous que ça va toucher en premier et qu'on n'a pas forcément choisi nos représentants parce qu'on n'a pas forcément eu le droit de vote.
On espère que nos politiques vont nous entendre, que ce soit en France, que ce soit dans le monde entier, même d'un point de vue local, qu'elles vont mettre en place des actions concrètes qui vont justement aider à la transition écologique, ne plus soutenir ceux qui sont un frein, c'est-à-dire tous ceux qui vont financer les énergies fossiles, ce genre de choses.
Puisqu'il faut changer les choses, aux armes citoyens.
En fait, il faut arrêter de polluer.
Voilà, notre société aurait du mal à penser collectivement sa propre fin, mais la jeunesse, elle, y parviendrait enfin, Aurélie Filippetti.
Oui, c'est, évidemment, c'est formidable, ce mouvement des jeunes. Alors, d'autant plus que ce sont vraiment des très, très jeunes. C'est-à-dire parfois des enfants ou des adolescents. Et donc, ils n'ont pas le droit de vote. Ils ne sont pas majeurs au sens de majorité de citoyens politiques qui peuvent peser justement dans le cadre d'une démocratie représentative. Et ils incarnent justement ces fameuses générations futures dont on parle beaucoup dans les discours politiques, mais soudain on les a sous les yeux et ils s'affirment comme un corps politique. Et le message qu'ils ont envoyé par justement ces manifestations profondément et intrinsèquement non violente est une formidable leçon de responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont censés être les responsables et qui ont vis-à-vis du climat une attitude irresponsable et irresponsable depuis plusieurs décennies. Les premières alertes sur le climat, elles datent du début des années 70, de tout le mouvement des penseurs à ce moment-là, qui avait notamment réfléchi sur ce qu'ils appelaient la croissance zéro et qui donnait lieu à beaucoup de sarcasme à ce moment-là dans les milieux politiques. Mais ça date du début des années 70. La conférence de Rio sur le climat, c'est 1992, ça fait donc 27 ans maintenant, et depuis, les dégradations à l'environnement et à la planète ont cru d'une manière qui est exponentielle. C'est-à-dire que non seulement il y a une inertie des responsables politiques mondiaux, internationaux, quelle que soit leur couleur politique, mais même il y a au fond une accélération du mouvement de prédation vis-à-vis de l'environnement. Et ce que rappellent ces jeunes, ces enfants, c'est que ce n'est pas tant la Terre, la planète qui est en danger, c'est la vie humaine. Et c'est eux à qui on va laisser un monde, à qui on laisse un monde totalement, totalement dégradé, puisque l'augmentation de la température de 1,5 degré, c'est pas dans 100 ans, dans 200 ans, c'est là, en 2030, c'est-à-dire demain.
Alors, certes, il y a le côté infiniment rafraîchissant de ce moment et revigorant, surtout après la première partie que nous avons eue dans cette émission. Pour autant, faut-il être à ce point binaire en opposant les générations, Christine Ockrent ? Est-ce qu'en effet, il faut parler uniquement d'inertie climatique aujourd'hui ? Il se passe des choses, néanmoins. Je pense par exemple à ce bilan qu'a fait l'INSEE sur les pratiques environnementales des entreprises. Un tiers aujourd'hui développe des démarches pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ça peut paraître dérisoire et ça peut paraître beaucoup. En tout cas, ça pourrait nourrir ce qu'on appelle un début de prise de conscience.
Oui, il est temps sûrement, mais moi ce qui me fascine, c'est que ces deux mouvements, celui dont on a parlé en première partie de cette émission et celui-ci, arrivent en même temps, sont parallèles. Et les enfants sont presque les enfants des premiers. Et donc, c'est, je crois, très symbolique, très, très... C'est vraiment l'image de nos sociétés qui sont vraiment prises dans leurs contradictions, d'autant que il y a une écologie politique qui existe depuis un certain temps, même si en France, malheureusement, par comparaison à ce qui se passe en Allemagne, où l'écologie politique a toujours mieux réussi à participer au gouvernement, est en train de monter. Je regardais les derniers chiffres depuis les élections en Bavière, où le Parti Vert a fait un score remarquable. On voit qu'aux européennes, d'après les projections, le Parti Vert en Allemagne, qui gouverne déjà dans certains Länder, ce Parti Vert pourrait doubler sa performance. Donc il y a en Allemagne, depuis plusieurs années, une traduction politique beaucoup plus efficace que chez nous, où on peut se demander pourquoi l'écologie politique véritablement a balbutié. Voilà, disons ça comme ça. Il faut quand même se souvenir, mais Aurélie s'en souvient sûrement mieux que moi, que Cécile Duflot, par exemple, si ma mémoire est bonne, avait refusé un très grand ministère où qui aurait pu inclure un certain nombre de domaines d'action, etc. Donc, pour en revenir à ce mouvement des jeunes, oui, mais c'est très important pour qu'ils poussent et qu'ils stimulent les responsables politiques, les responsables économiques. On voit qu'il y a aussi maintenant un mouvement d'avocats et de juristes qui veulent faire des procès, tantôt à l'État pour inaction, tantôt à certaines entreprises pour pollution excessive, etc. On voit que la Banque Centrale Européenne est désormais priée, ainsi que d'autres grandes banques, de s'intéresser à des rachats de dettes qui privilégieraient davantage des entreprises plus raisonnables que d'autres. Donc oui, il y a maintenant davantage d'acteurs qui s'intéressent à cela. Mais souvenons-nous quand même de nos propres contradictions, parce que ces mêmes enfants qu'on aime, qu'on adore, qu'on applaudit, etc., ils ont leur téléphone portable, et s'il n'y a pas la 5G dans quelques mois, ben, tout le monde va râler. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, produit le plus d'émissions de gaz de carbone, pour aller vite, hein, c'est évidemment l'utilisation massive de tous ces moyens de communication qui font désormais aussi partie de nos modes de vie. Donc il y a énormément de contradictions à résoudre, mais oui, on ne peut que applaudir Greta et tous ces émules. Mais encore faut-il que ce soit transformé par nos sociétés, et notamment les sociétés politiques.
Vous faisiez référence à l'instant, Christine, à la pétition de l'affaire du siècle. Thierry Pêche, cette campagne de justice climatique qui vise à poursuivre en justice l'État pour son inaction en matière de réchauffement climatique, qui a près de 2 millions de signataires, je crois. Ça va dans le bon sens, ce genre de démarche ?
Ce qui va dans le bon sens, c'est la multiplication des mouvements non politisés, non politiciens,
sur cette question. C'est ça qui est frappant. C'est frappant en France, c'est frappant dans beaucoup d'autres pays du monde. En fait, on voit que les systèmes politiques traditionnels n'arrivent pas à assimiler l'enjeu écologique, à l'exception du contexte allemand, qui est très particulier, mais qui est une exception. Quand vous regardez, par exemple, les États-Unis, l'administration Trump est une administration climato-sceptique, bornée, obtuse, mais aux États-Unis, il y a beaucoup d'Américains, de villes américaines, d'associations qui font des tas de choses. Les marchés financiers sont en train de se saisir de cette question. Donc la société... Les sociétés sont en train de mûrir beaucoup plus vite que leurs représentants politiques et que leurs traditions politiques sur cette affaire, et ça c'est très bien. Est-ce que vous savez quand ont eu lieu 3 des 5 plus graves tempêtes, les plus dévastatrices de ces 25 dernières années ? C'était l'an passé. Des choses sont là. On oppose fin du mois et fin du monde, mais ça n'a aucun sens. Viendra le jour, et il viendra bientôt, où la fin du monde sera à la fin du mois. Et ça, il y a des gens qui le comprennent, et notamment dans la jeunesse, parce que quand on a 15 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'on connaîtra un monde à plus 2 degrés, probablement. Vous savez qu'en PACA, par exemple, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le plus 1,5, il est déjà là. C'est déjà dans les moyennes. Plus 2, plus 2,5, plus 3, il y a des catastrophes en série, en cascade. Donc c'est absurde de dire les fins de mois avant la fin du monde.
J'aimerais bien d'ailleurs savoir comment le...
Juste un mot. Par contre, ça veut dire qu'il faut être réaliste sur les questions écologiques. Il ne faut pas parler aux gens simplement, soit sur le mode de la dramatisation, un peu comme je viens de le faire, j'en excuse, soit...
Chacun a ses propres paradoxes.
Soit sur le mode de l'enchantement. Et ça ne va pas être un enchantement. Ça coûte cher, ça suppose des efforts, et il faut, je crois, parler de façon réaliste.
Alors, soyons réalistes et regardons justement comment le politologue Dominique Régnier regarde ou observe justement ces deux mouvements d'époque que l'on voit se rassembler parfois le même jour. C'était le cas samedi dernier dans la capitale. On a dit d'un côté la France jaune, de l'autre la France verte. On se demandait s'il y avait convergence ou non entre ces deux Frances-là. Quel est votre regard de politologue ?
Les uns ont manifesté au départ contre la taxe carbone pour aller très vite. Les autres manifestent pour le climat. Donc on voit bien qu'il faudra trouver un compromis quelque part. On ne peut pas faire autre chose que se réjouir de voir un tel enjeu devenir une préoccupation aussi large, et en particulier pour les jeunes générations. Il faut faire attention de ne pas les désespérer par des défis qui seraient impossibles à relever. C'est ce que disait Thierry Pêche, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, moi j'approuve tout à fait. Faut aussi éviter des contradictions, par exemple signer une pétition qui appelle à attaquer l'État pour inactivité et en même temps qui demande l'arrêt du nucléaire, c'est contradictoire. Selon le GIEC, nous n'arriverons à rien si nous ne recourons pas au nucléaire. Et si la France doit progresser, c'est aussi un des pays les plus vertueux. C'est dommage de ne pas le dire aux jeunes générations. Nous sommes un des pays qui émet le moins de CO2. C'est dommage de ne pas le dire aux jeunes générations, parce que ça, c'est aussi le résultat du travail des aînés. Et ne pas couper, ne pas opposer les jeunes générations et les aînés, ce serait, je pense, là-dessus, une très bonne chose. Et puis, je voudrais juste terminer en évoquant, puisque nous écoutons les scientifiques, on sait que le nucléaire pose un problème de déchets, bien que pour le fossile, on accepte de stocker dans le ciel les déchets énormes et bien plus importants et qui ont la même durée de vie que nous produisons. Moi, je voudrais juste rapidement vous lire un extrait de l'interview de Gérard Mourou, qui est le prix Nobel de physique français de 2018, travaille sur le rayon laser. Celle qui me tient, utilisation des rayons laser, celle qui me tient particulièrement à cœur est le traitement des déchets radioactifs avec nos techniques laser. Je m'explique. Prenez un noyau atomique, c'est court, hein. Il est composé de protons et de neutrons. Si on met un neutron en plus ou si on en enlève un, ça change absolument tout. Ce n'est plus le même atome. Ses propriétés vont alors durablement changer. La durée de vie de ces déchets est changé fondamentalement. On peut la réduire d'un million d'années à 30 minutes. L'innovation sera aussi sans doute une réponse à ces défis.
Merci Dominique Régnier. Aurélie Filippetti, je vous laisse conclure sur cette deuxième partie.
Simplement, si le nucléaire était la panacée pour régler tous les problèmes environnementaux, à ce moment-là, il faudrait l'appliquer à tous les pays de la planète.
La Chine construit 130 centrales nucléaires en ce moment.
Ça pose d'autres problèmes, qui sont des problèmes de sécurité des centrales. Je vous rappelle que l'accident de Fukushima, il n'est quand même pas si ancien, et ça s'est fait dans un grand pays développé, le Japon. Donc, considérer que le nucléaire va être la solution, et la solution technique, relève encore de cette illusion positiviste, en fait, qui est à l'origine, au fond, de la catastrophe environnementale dans laquelle nous sommes. C'est de toujours avoir considéré qu'au fond, la technique allait permettre de résoudre les problèmes que la technique avait créés. C'est oublier une chose, c'est qu'au fond, nous avons besoin aujourd'hui de sobriété. Nous avons besoin de faire évoluer nos modes de vie, nos modes de production, de nos modes de consommation qui sont devenus fous. Et indépendamment de la question du nucléaire, la question des transports, la question du transport, d'un kilo de crevettes entre Madagascar et le moment où vous allez la manger chez vous, etc. Ça sont des questions qu'on ne pourra pas régler la crise écologique sans accepter de remettre en cause notre mode de vie, notre mode de consommation, notre mode de production. Et c'est ça, au fond, le principe fondamental. Et donc, il y a un lien direct avec le débat de la première partie, c'est que, au fond, ça va aussi nécessiter un changement dans la manière dont on va prendre les décisions. Pourquoi ? Parce qu'au fond, la démocratie participative sera nécessaire et indispensable pour résoudre la crise écologique. On le voit, les élus, les gouvernements sont malheureusement trop souvent, la Commission européenne, etc., sous la pression des lobbies, de lobbies extrêmement puissants contre l'environnement, contre les évolutions, contre l'interdiction du glyphosate, etc. Il y a eu des lobbies sur l'amiante. Donc, à travers la démocratie participative, il y aura aussi moyen de faire évoluer les choses. Et par exemple, en organisant ce qu'on appelle des conférences citoyennes, des conférences de consensus sur, au fond, ce qu'une société est capable ou souhaite accepter comme dose de risque. Sur la question du nucléaire, oui, on peut organiser des conférences citoyennes où les gens, pesant le pour, le contre, écoutant les différents experts, pourront décider s'ils veulent accepter ce risque ou pas. Ou s'ils d'ailleurs préfèrent d'autres méthodes pour produire de l'énergie.
Le sujet de l'écologie qui est d'ailleurs, relève ceux qui assistent à ce grand débat de la salle, très présent dans les différents débats qui ont lieu en région. Très brièvement, votre conclusion, Thierry Pech.
Disons que si, entre s'endormir gentiment sur l'oreiller du progrès technologique et rêver d'une utopie
sobre.
De sobriété totale ou les
frigos. Dans les deux cas, on s'assoupit.
On aurait le frigidaire en bois pour.
La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. S'il vous plaît, c'est une fin d'émission.
Il faut organiser une transition. Et bien sûr que le nucléaire est nécessaire pour cette transition, mais si on ne fait pas aujourd'hui les investissements massifs dans les énergies renouvelables, etc., on ne verra jamais la fin du nucléaire. On sera dans ce piège.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous. Merci à vous d'être venus si nombreux aujourd'hui au Théâtre de l'Odéon. Et rendez-vous bien sûr le mois prochain. Merci à Marine Beccarelli et Luc-Jean Reynaud pour la préparation de cette émission et sa réalisation. Merci les équipes de France Culture et de l'Odéon. Merci Marc Garvenas, Érico Draguel, Edelin, Virginie Hilaire, Thomas Rouleau-Gallet, Sarah Cornu, Théo Tisseuil, Olivia Place et Francesca Fossati. À suivre Les Bonnes Choses de Caroline Brouet et Signe des Temps de Marc Weisman. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h. Bonne fin de week-end sur France Culture.